VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 18 décembre 2015.
Arrestation de plusieurs membres des forces de sécurité au Niger après une tentative de coup d'État.
L'objectif de ces individus, animé par je ne sais quelle motivation, était de renverser le pouvoir démocratiquement élu en utilisant les moyens mis à leur disposition par le peuple pour assurer sa sécurité.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou.
Référendum constitutionnel en Centrafrique, le oui l'a emporté à Bangui, la capitale.
Et ce vendredi, ce sont les Rwandais qui prennent part à un référendum constitutionnel. Le oui étant gagné d'avance, permettrait à Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034.
La CEDEAO interdit le voile islamique intégral afin de mieux lutter contre la multiplication des attentats suicides.
Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad menace de se retirer de l'accord de paix d'Alger.
Discussion des grandes puissances ce vendredi à New York sur un projet de résolution américano-russe sur la Syrie.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Tentative de coup d'État déjouée au Niger. Plusieurs membres des forces de sécurité ont été arrêtés, notamment le général Salou Souleymane, les colonels Idi Nawa et Naré Maïdoka et le lieutenant Ambali parmi d'autres. Le président Mahamadou Issoufou a confirmé cette tentative jeudi soir dans un message à la nation à la veille de la fête de l'indépendance. Voici un extrait de sa déclaration.
L'objectif de ces individus, animé par je ne sais quelle motivation, était de renverser le pouvoir démocratiquement élu en utilisant les moyens mis à leur disposition par le peuple pour assurer sa sécurité. Ils envisageaient notamment d'utiliser la puissance de feu, des moyens aériens qu'ils ont bloqués délibérément depuis des semaines ici à Niamey, alors que je l'ai pressé de les envoyer à Difa sur le front de la lutte contre Boko Haram, où nos vaillants soldats, leurs frères d'armes, en ont le plus grand besoin. Il s'agit ni plus ni moins d'une haute trahison, non seulement contre les institutions civiles de l'État, mais aussi contre l'institution militaire elle-même. Il s'agit d'un coup de poignard dans le dos de leurs frères d'armes affectés au front de combat. Cette tentative de coup d'État dans le contexte sécuritaire actuel n'est pas sans rappeler le coup d'État du 22 mars 2012 au Mali, qui a ouvert la voie à l'occupation de 2/3 du territoire malien par des terroristes. Heureusement pour notre pays, les principaux auteurs de cette folle aventure ont échoué et ont pu être tous identifiés et arrêtés, à l'exception d'un seul actuellement en fuite. La situation est calme et sous contrôle. L'enquête en cours permettra d'identifier les autres acteurs et complices éventuels de ce funeste complot contre la sûreté de l'État.
C'était le président nigérien Mahamadou Issoufou.
L'Autorité nationale des élections en Centrafrique a rendu public jeudi des résultats partiels du référendum constitutionnel du 13 décembre. Ces résultats concernent exclusivement Bangui, la capitale, et sans surprise, c'est le oui qui l'emporte. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a rendu public ses résultats après examen et validation par l'ensemble de ses membres. Le oui l'emporte à 90% dans toute la ville de Bangui. Julius Rufengwa Dibaba, rapporteur général et porte-parole de l'ANE.
La péréquation pour la ville de Bangui nous donne 292 696 électeurs inscrits, un suffrage valablement exprimé de 86 963, soit un taux de participation de 30%. Le oui a obtenu 77 979 voix et le non 8 984 voix, soit 90% de oui et 10% de non.
Selon l'ANE, les résultats de l'intérieur du pays passent au centre de traitement de données au fur et à mesure qu'ils sont acheminés à Bangui. Les résultats définitifs seront publiés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle de transition. À Bangui, au moins 5 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres blessées dans les violences qui ont émaillé le référendum du 13 décembre. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU a sanctionné deux responsables de groupes armés centrafricains à la suite des violences qui ont marqué ce référendum. Haroun Gaï et Eugène Ngankosé ont été ajoutés à la liste du comité des sanctions de l'ONU en Centrafrique. Le premier est un dirigeant du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, un groupe armé de l'ex-Séléka à Bangui. Il dirige aussi le comité de défense du PK5, un quartier où se sont déroulées des violences pendant le scrutin. Eugène Ngankosé est un ancien capitaine de la garde présidentielle de l'ex-président François Bozizé. Selon le comité, il est associé au mouvement anti-Balaka et a créé sa propre faction depuis qu'il s'est évadé de prison en mai dernier.
Les dirigeants de la CDAO se sont entendus jeudi pour interdire le voile islamique intégral dans leurs pays respectifs afin de mieux lutter contre la multiplication des attentats suicides commis par des femmes ou par des hommes dissimulés derrière ce type de vêtements. Des détails avec Eddy Issango.
Les chefs d'État doivent prendre des mesures pour interdire tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne, a déclaré le président de la commission de la CDAO, Kadré Désiré Ouédraogo, à l'issue d'un sommet de 2 jours. L'islam étant la religion majoritaire dans toute la région sahélienne, M. Ouédraogo a précisé que les pays devront agir en prenant en compte leur propre situation et leur environnement culturel. Le Tchad a déjà interdit les ports du voile intégral sur l'ensemble de son territoire en juin après un double attentat suicide en N'Djamena. Les Cameroun et le Niger ont pris des mesures similaires en juillet dans certaines de leurs régions frappées par des attaques kamikazes. Le groupe Boko Haram a eu plusieurs fois recours à des femmes, des adolescentes et même des fillettes pour commettre des attentats suicides dans le nord du Nigeria, au Tchad et dans le sud-est du Niger et le nord du Cameroun. La dernière en date a eu lieu mercredi à Mafa, près de Maïdougouri, où 4 jeunes femmes ont attaqué un poste de contrôle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le renvoi de Christine Lagarde devant la justice française place la présidente du FMI dans une position inconfortable, mais ne devrait pas l'empêcher d'assurer ses fonctions à la tête de l'institution. John Lindon.
À peine la nouvelle connue, le conseil d'administration du Fonds monétaire international lui a immédiatement apporté son soutien, réitérant une position constante depuis l'ouverture de l'enquête en août 2011. Michel Sapin, ministre français des Finances, a également assuré depuis New York que Mme Lagarde pouvait rester à son poste car elle est présumée innocente. Arrivée à la tête du FMI en juillet 2011, Mme Lagarde a d'ailleurs fait savoir qu'elle contesterait en justice son renvoi devant un tribunal pour son rôle présumé dans l'arbitrage dont Bernard Tapie a bénéficié quand elle était ministre de l'Économie en France. Mme Lagarde, dont le mandat arrive à terme en juillet prochain, s'est récemment dite ouverte à l'idée d'embriguer un second à la tête du FMI.
Barack Obama se rend aujourd'hui en Californie pour rencontrer les familles des victimes de la tuerie du 2 décembre à San Bernardino. Hier, il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Des détails avec Chérubin Dorsil.
Prenant la parole à l'issue d'une réunion au Centre national de lutte antiterroriste à Washington, M. Obama a souligné que sa plus haute priorité est la sécurité du peuple américain. Le locataire de la Maison-Blanche s'est voulu rassurant dans la foulée de l'attaque meurtrière de ce mois-ci à San Bernardino, en Californie, et des attaques sanglantes à Paris le 13 novembre, perpétrées par des partisans du groupe État islamique. Le président Obama a appelé tous les Américains à rester vigilants, tout en précisant que les autorités américaines ne sont au courant d'aucune menace terroriste imminente spécifique à la veille de la période des fêtes de fin d'année. Il a ajouté que son gouvernement continue de lutter contre le terrorisme à l'étranger et fait tout son possible pour prévenir l'entrée des terroristes sur le sol américain. Notre réunion concernait en partie la façon dont nous pouvons continuer à renforcer notre partenariat entre les agents de l'ordre, les leaders du secteur de la haute technologie, les communautés, les leaders religieux et les citoyens, a dit M. Obama. Lors d'une rare visite au Pentagone lundi, il s'était montré confiant quant aux chances de succès de la coalition contre Daesh. Selon lui, le groupe militant perd du terrain et ses dirigeants n'ont pas d'endroit pour se cacher.
Les grandes puissances se retrouvent ce vendredi à New York en quête d'une résolution du Conseil de sécurité qui entérinerait un plan américano-russe pour la Syrie. 17 pays dont les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran et 3 organisations, l'ONU, l'Union européenne et la Ligue arabe, doivent se réunir pour la 3e fois depuis octobre au sein du groupe international de soutien à la Syrie dans le cadre du processus de Vienne qui a débouché en novembre sur une feuille de route pour la Syrie. Ce document prévoit une rencontre à partir du 1er janvier entre les représentants de l'opposition syrienne et du régime de Damas, un gouvernement de transition dans les 6 mois, des élections dans les 18 mois et un cessez-le-feu.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi 2 résolutions non contraignantes dénonçant des violations des droits de l'homme en Iran et en Corée du Nord. Dans un texte proposé par l'Union européenne et le Japon, l'Assemblée appelle le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale. La résolution demande à Pyongyang de fermer des camps de prisonniers. Un second texte à l'initiative du Canada concerne la peine de mort en Iran.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Michel Joseph.
Les États du Sénégal et du Mali ont résilié la concession qui les liait depuis 12 ans au groupe français Advance pour la gestion du chemin de fer Dakar-Bamako. Abdoulaye Lo, directeur général de l'Agence nationale des chemins de fer du Sénégal, a déclaré hier à l'AFP « C'était une concession de 25 ans, mais depuis qu'elle dure, aucun investissement n'a été fait ni sur la voie ni sur le matériel. Le concessionnaire n'a jamais voulu investir un seul centime. Tout est dégradé », a-t-il affirmé. La Guinée-Bissau a pour sa part créé jeudi une commission pour la révision de la gestion et de l'accord de coopération sur la zone maritime commune avec le Sénégal. La zone concernée est connue pour son abondance en produits halieutiques et pour ses indices de gisements de pétrole. Au Cameroun, le ministère des Finances, à travers la Direction générale des impôts, ne collectera plus directement les frais de vignette automobile. Cette fonction est dorénavant dévolue aux compagnies d'assurance conformément aux nouvelles dispositions de la loi de finances 2016 en cours d'adoption par le Sénat après sa validation avec l'Assemblée nationale. Selon toujours la même agence, le Burkina Faso engage la mise en œuvre du projet hydraulique et d'assainissement en milieu rural grâce à un appui de 12,5 millions de dollars de la Banque islamique de développement.
Merci Michel pour cette page économie. À présent, les sports présentés par Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
Alors la nouvelle du jour, c'est José Mourinho qui a été renvoyé de Chelsea.
Oui, l'entraîneur portugais paye les mauvais résultats des Blues au seulement 16e de Première Ligue avec 9 défaites en 16 matchs. Âgé de 52 ans, José Mourinho était à la tête du club londonien depuis 2013. Il avait remporté le titre de champion d'Angleterre et la Coupe de la Ligue au printemps dernier. Le Portugais avait déjà dirigé les Blues entre 2004 et 2007. Il les avait notamment menés au titre de champion en 2005 et en 2006. Selon des informations de la presse, le propriétaire du club, Roman Abramovich, devrait débourser au moins 13,7 millions d'euros pour protéger les indemnités de départ de Mourinho.
On revient sur le scandale à la FIFA. Blatter a été entendu pendant des heures.
Oui, le président démissionnaire et suspendu de la FIFA a été entendu environ 8 heures hier jeudi devant les juges de son instance à Zurich en Suisse pour s'expliquer, notamment sur le paiement controversé d'1,8 million d'euros à Michel Platini qui pourrait valoir une radiation à vie aux deux hommes.
Et Joseph Blatter a un grand admirateur en Russie.
Oui, en la personne de Vladimir Poutine qui a lancé lors de sa conférence de presse annuelle, je cite, « La contribution de Joseph Blatter dans le domaine humanitaire est colossale. Voilà la personne à qui il faut donner le prix Nobel de la paix. »
On connaît l'affiche de la Coupe du Monde des clubs.
Ce sera le FC Barcelone contre le club argentin de River Plate. Le Barça a éliminé hier jeudi le Guangzhou Evergrande 3-0. 3 buts de Luis Suarez. Et pour terminer, Nathalie, quelques résultats de la NBA.
Cleveland a mis un terme à la série de 6 victoires consécutives d'Oklahoma City en s'imposant 104-100 grâce aux 33 points de LeBron James et dans un autre match de la soirée, notamment la défaite de Toronto face aux Hornets 99-109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Retour sur la tentative de coup d'État annoncée hier par le président nigérien Mamadou Issoufou à la veille de la fête de l'indépendance. Cette nouvelle a été précédée par celle de l'arrestation de plusieurs membres des forces de sécurité. Abdulaziz Adili Toro du service Haoussa de la Voix de l'Amérique a joint le professeur Bouba Namaïwa de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar.
D'après les informations que j'ai reçues, il s'agit d'abord du commandant de l'escadrille, je ne sais pas comment le langage militaire le dit, il s'appelle Ahawa. Ensuite, celui du premier bataillon de l'artillerie de Tilaberi, Nare Medoka, et dans cela, il y a l'ancien chef d'état-major de l'armée Niger sous la transition du général Salou Djibo au Niger, et qui s'appelle Salou Suleiman, et qui est aussi de l'armée de l'air. Voilà les éléments que j'ai, mais on m'a aussi fait comprendre qu'il y a le lieutenant Ambali qui est en fuite. On dit qu'on leur reproche de vouloir fomenter un coup d'État. Or, si vous voulez mon analyse à moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement un dossier monté. Pourquoi je vous dis que c'est un dossier monté? Parce que il vous souviendra certainement que déjà 4 mois après son arrivée au pouvoir, il a accusé ou bien il a été cas, sans preuve aucune, que le lieutenant Abali à l'époque voulait déjà renverser ou bien attenter à la vie du président de la République. Jusqu'ici, nous attendons les résultats de l'enquête et aucune enquête n'a encore révélé qu'il y a eu tentative d'assassinat. J'appartenais, évidemment, je ne vous le cache pas, au parti politique Le Pen de Saraya, mais à partir d'un certain moment, ce sont des gens qui sont devenus totalement parrainés et ils veulent simplement conserver le pouvoir et ils ont totalement des contrôles qu'ils organisent.
Selon vous, quelles sont les implications maintenant pour le Niger où des élections sont prévues en février 2016, juste à 2 mois de ces élections?
Mais c'est justement là, si vous voulez, tout l'enjeu. L'enjeu, c'est que ces dirigeants que vous avez en face de vous au Niger, ils ne veulent pas organiser des élections dans les conditions d'équité, de transparence et de liberté. De telle sorte qu'ils sont là en train d'imaginer des complots totalement fictifs et s'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à les apporter. Donc, à mon avis, ils veulent simplement alerter l'opinion nationale pour que l'opinion internationale et nationale puisse simplement accepter que ces messieurs qui nous gouvernent aujourd'hui puissent passer dès le premier tour comme cela. Maintenant, ils sont en train de le plastronner et de le poireauter pratiquement sur tous les toits en disant qu'ils vont passer dès le premier tour. Or, on sait qu'au Niger, cela est totalement impossible. C'est juste pour mettre un peu la pression sur le peuple nigérien au niveau de la communauté internationale pour pouvoir opérer ce hold-up qu'ils veulent vraiment faire, puisque quand on remarque le président de la CENI de la Guinée, M. Fofana, qui est venu au Niger pour, disons, expertiser, entre guillemets, les fichiers électoraux, etc., d'après toutes les informations que nous avons, ils ont des clés qu'ils veulent introduire à l'image de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina pour passer au premier tour. Donc tout cela, c'est pour préparer leur passage en force au premier tour.
C'était le professeur Bouba Namaïwa de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Le président de la commission de la CDAO, Kadré Désiré Ouédraogo, a annoncé hier que les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sont entendus pour interdire le voile islamique intégral dans leurs pays respectifs afin de mieux lutter contre la multiplication des attentats. Cette décision, qui concerne tous les vêtements qui rendent impossible l'identification d'une personne, a été prise à l'issue d'un sommet de 2 jours de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le Tchad a déjà interdit le voile intégral sur l'ensemble de son territoire en juin à la suite d'un double attentat suicide à N'Djamena. Le Cameroun et le Niger ont pris des mesures similaires en juillet dans certaines de leurs régions frappées par des attaques kamikazes. Pour une analyse, Idrissa Seydoudia a joint à Ouagadougou l'imam Ismaël Tiendré Beogo du Cercle d'études de recherche et de formation islamique.
Déjà, c'est des raisons de sécurité samedine qui permettent d'expliquer cela. Et on estime que le voile intégral ne permettrait pas de voir le visage des individus et pour cela, il faudrait l'interdire dans le cadre de la lutte contre les attentats. Mais c'est peut-être une décision assez délicate, malheureusement, qui a été prise. Parce qu'il faut peut-être faire de la pédagogie pour qu'on ne perçoive pas ça comme une atteinte à la liberté individuelle. Il vous souviendra que dans le cadre de l'ONU, par exemple, il y a une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, et notamment qui fait obligation aux États membres de garantir la liberté religieuse en public et en privé, individuellement et collectivement, aux ressortissants de ces pays signataires-là. Parce que le muslim bashing, on le connaît un peu à travers les médias, et cette association malencontreuse entre l'islam et la violence, si on ne fait pas assez de pédagogie, je pense que ça va poser problème à ce niveau déjà.
Mais on dit dans la décision que les pays devront agir en prenant en compte leur propre situation et leur environnement culturel. Donc, il semble que ce ne sera pas quelque chose qui sera imposé à l'ensemble de la CEDEAO.
Ça, c'est dans le principe. Parce que vous savez que, généralement, là, les dispositions législatives ou les conventions, quand on les signe, c'est pour aller vers ce qu'on va appeler, entre guillemets, un ordre social désirable. Donc, les États, peut-être, dans le cadre de l'évaluation par les pairs, peuvent peut-être se sentir un peu plus en marge que d'autres parce qu'on n'a pas mis en place cette disposition communautaire. Donc, déjà, il y a peut-être cette incitation à peine voilée d'aller dans ce sens-là. Et il est bien heureux qu'on demande aux uns aux autres de tenir compte de ce contexte-là pour ne pas prendre des décisions et peut-être les appliquer partout parce que nous ne sommes pas sur un même niveau pour ce qui est du risque de terrorisme. C'est vrai que pour le Burkina, il semble que nous ne sommes pas hors de la menace terroriste. Et c'est comme je l'ai dit, il faut absolument éviter dans ce genre de situation qu'il y ait de la frustration, qu'il y ait une mise à l'index.
Oui. Je voudrais vous demander justement si c'est vraiment indispensable dans l'islam ou si ce voile dit intégral relève tout simplement des us et coutumes.
Oui, en fait, c'est à ça, effectivement, je voulais en venir. Effectivement, il n'y a pas un texte qui en fasse une obligation qui prescrive aux musulmans de porter un voile intégral. Mais dans la mesure où il s'agit d'une liberté individuelle, il faut bien évidemment que les uns et les autres puissent en jouir conformément à ce que les États se sont engagés à garantir à leurs ressortissants dans le cadre des conventions de l'ONU sur l'interdiction de la discrimination.
Ismaël Tiendré-Béogo du Cercle d'études de recherche et de formation islamique, le CERFI, était joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Les Rwandais prennent part ce vendredi à un référendum constitutionnel qui pourrait permettre au président Paul Kagame de solliciter encore un mandat en 2017. Des précisions avec Lionel Gaïma.
En plus d'un septennat en 2017, les modifications proposées donnent au chef de l'État rwandais la latitude de briguer deux quinquennats et de rester ainsi au pouvoir jusqu'à 2034. Pour certains de ses partisans, le scrutin est un gaspillage d'argent dans la mesure où des millions de Rwandais ont déjà signé une pétition pour éliminer la limitation de mandat. Selon le Parlement rwandais, plus de 3,5 millions de Rwandais en âge de voter, soit 60% du corps électoral, se sont prononcés en faveur de la pétition. Toutefois, le président Kagame lui-même entretient un mystère autour de ses intentions, n'ayant toujours pas dit s'il se porterait candidat ou non. Frank Habineza, leader du Parti démocratique vert du Rwanda, est le seul leader d'opposition ayant battu campagne dans le pays contre la modification de la Constitution. Nous avons eu l'information que l'idée a été lancée par certains membres du gouvernement, quelques ministres en 2010. Le Rwanda est généralement perçu comme un modèle de bonne gouvernance en Afrique. Frank Habineza reconnaît que le président Kagame a œuvré pour le développement du pays, mais ne pense pas que le président rwandais doive pour autant rester au pouvoir au-delà de 2017. Cela pourrait constituer une menace pour la paix et la sécurité. Nous pensons qu'il a impulsé un progrès constant dans le pays, mais pour maintenir ce progrès et ce développement économique, nous devons respecter nos lois. Le bilan de Kagame est mitigé, estime Karina Tersakian de l'ONG Human Rights Watch.
Il y a eu de réelles améliorations en termes de développement, d'accès aux services publics, mais en termes de droits civiques et politiques, la situation est encore très préoccupante.
Karina Tersakian s'attend à ce que le oui l'emporte ce vendredi, mais se demande si cela ne va pas être influencé par les restrictions aux droits politiques. Plusieurs leaders de l'opposition et de la société civile sont actuellement emprisonnés au Rwanda et ces dernières années, des opposants et critiques du gouvernement ont été la cible d'attaques. Quelques signes de liberté sont à relever, notamment dans les médias où les discussions ont eu lieu au sujet du référendum. Pour un autre analyste, il ne faut pas non plus sous-estimer la volonté des Rwandais de participer à la prise des décisions politiques dans leur pays.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Au Mali, désaccord au sein du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Al-Mouag Mohamed, porte-parole des groupes armés CM1, la coordination des mouvements de l'Azawad, récuse la présence du Compis 15, un autre mouvement armé signataire de l'accord. Il a laissé entendre que les groupes armés pourraient se retirer complètement du processus d'Alger si l'impasse continue. Modibo Dembélé a fait le point de la situation avec le journaliste malien Issa Fakaba.
Selon le porte-parole de la CEMA qui parle au nom des deux mouvements, officiellement ils expliquent leur retrait des travaux par deux raisons fondamentales. Quand ils sont rentrés, ils ont vu selon eux des nouvelles personnes dans la salle des travaux, des gens selon eux qui ne sont pas partie prenante du comité de suivi. La deuxième raison, les travaux se tiennent dans une salle qui ne répond à aucune exigence de sécurité. Mais il fallait s'attendre à cette tension élevée entre les parti depuis quelques jours. Le ton était monté d'un cran, notamment du côté des groupes armés qui accusent le gouvernement malien, je les cite, de manquer de volonté politique à accélérer le processus de paix. Si vous vous rappelez, le samedi dernier, le parrainage, un parti d'opposition malien, avait organisé une rencontre sur le processus d'Alizé. Le porte-parole de la plateforme avait dit en son temps que le processus est bloqué. Le lundi, un autre responsable de la CEMA a confirmé ce blocage-là. Mais le gouvernement il refute ces accusations-là.
Quel est le risque que cela pourrait représenter pour l'application des clauses de l'accord?
Il faut s'attendre à une incidence sur le calendrier de mise en œuvre de l'accord. Nous sommes à 6 mois après la signature de l'accord et aujourd'hui, le processus de démobilisation et de construction des sites de cantonnement, rien n'est encore fait dans ce sens-là. De deux, les réfugiés que la guerre avait déplacés sont encore obligés de prendre leur mal en patience. Trois, nos compatriotes qui sont dans les villes du Nord doivent aussi prendre leur mal en patience face à l'insécurité grandissante. L'incident sur le calendrier de mise en œuvre est là.
Pourtant, on constate que malgré la signature de l'accord de paix, l'armée malienne n'a toujours pas accès à Kidal. Comment expliquez-vous cela?
Le président de la République en visite à Ségou, il dit, je le cite, aucune fanfaronnade ne me fera effectuer un déplacement à Kidal. La phrase a laissé cours à tous les commentaires qu'on veut. Quand vous écoutez les différentes parties sur cette question, il semble qu'il doit y avoir un préalable pour cette présence de l'armée à Kidal. Notamment, les parties expliquent que cette présence devrait intervenir après la phase de cantonnement et de démobilisation. Donc, selon les différentes parties, le processus devant aboutir à cette présence de l'armée à Kidal n'est pas encore bouclé. Cela voudrait dire que soit la médiation et le gouvernement malien prennent leurs responsabilités par rapport à la représentativité des personnes dans le CSA, soit ils vont purement et simplement se retirer. C'est cet aspect-là qui est contenu quand on sait qu'aujourd'hui, les travaux se sont poursuivis à Bamako, mais sans la Compis 15, c'est-à-dire la coordination des groupes armés signataires du 15 mai dernier, le représentant spécial de l'Union africaine. La question de la représentativité est en débat et il espère qu'une solution sera trouvée.
Notre confrère Issa Fakaba était joint à Bamako, la capitale du Mali.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était Darren Smith. Et avec vous, à la présentation, Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon week-end à toutes et à tous.